Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bonjour à tous, on peut être à la fois artiste et militaire, avoir une formation rigoureuse, scientifique, tout en laissant son esprit vagabonder face à une toile, crayon ou pinceau à la main. Dans un moment, on va vous parler d'un homme qui est venu s'installer il y a une centaine d'années ici au Maroc. Il s'appelait Théophile Jean Delay. Une centaine de ses toiles et de ses dessins sont présentés actuellement au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Mais pour l'instant... retour sur une consécration, celle de Zanka Contact. Ce film, vous l'avez peut-être déjà vu, à tout le moins vous en avez sans doute entendu parler. Sorti en décembre dernier au Maroc, il a reçu le week-end dernier le Grand Prix au Festival National du Film. Dans un instant, nous serons en ligne avec son réalisateur Ismaël Al-Iraki. Avant cela, on plante le décor avec Soukaina Aziz.
À Casablanca, Larsen Snake, rocker déchu, rencontre Raja, une prostituée à la voix magnifique. Leur histoire d'amour passionnel est semée d'embûches. Zanka Contact, c'est la rencontre entre deux personnes qui fuient leur présent à la recherche de la liberté. Le réalisateur Ismaël Al-Iraki nous en dit plus.
Le film est une sorte de montagne russe émotionnelle. Ce qu'on a voulu, c'est qu'on soit toujours à fond émotionnellement, en multipliant les genres, en multipliant les histoires. Et donc c'est à la fois une histoire d'amour, un western, un film rock. C'est un film qui parle de stress post-traumatique et de libération de la parole. C'est un film féministe, c'est un film qui mélange donc toutes ces choses-là dans un seul feu qui donne ce Zanka Contact.
Le cinéaste marocain formé en France s'inspire de Sergio Leone ou encore du réalisateur américain Quentin Tarantino.
Vous avez des personnages chez Tarantino ou des situations chez Tarantino, on ne sait jamais si ça va virer au drame ou si c'est une blague. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très très casablancais, quoi.
Ce film a son lot de violence, il pose un regard différent sur les hommes, notamment son personnage principal, Larsen Snake. Écoutez Ismaël Al-Iraki.
Une des choses qu'on a voulu faire, c'est-à-dire c'est de donner une vision d'une masculinité maghrébine, marocaine, qui soit pas une masculinité toxique, agressive, qui soit plutôt empreinte de sensualité et de douceur. Et donc, on s'est beaucoup inspiré de Marlon Brando plutôt que de Nicolas Cage.
Ce film a été récompensé à plusieurs reprises. Meilleur long métrage au festival de Louxor en Égypte. Trinsa Batmael, qui joue le rôle de Raja, a été élue meilleure actrice dans la catégorie Horizon. C'était lors de la 77e édition du Festival du film de Venise. Et Ismaël Al-Iraki a dû se battre pour que son film soit sélectionné, car Zanka Contact est très différent des autres réalisations marocaines.
Moi, je suis dans ce cinéma que j'appellerais cinéma d'imagination, qui mélange plusieurs genres, peut aller de l'hallucination et d'un registre qui est assez onirique jusqu'au pur film rock et avec des éléments de western, avec des éléments de polar, avec toujours une histoire d'amour qui sous-tend tout le film, qui est le cœur du film.
Un film de genre pour exorciser certains maux, certains traumatismes, car Ismaël Al-Iraki est un survivant des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il était au Bataclan lors de cette tragique soirée. Écoutez Ismaël Al-Iraki.
Là, je commence à avoir des retours de gens qui ont vu le film, des gens très très divers, comme par exemple, il y avait une dame qui avait survécu aux attentats de Nice, qui avait 80 ans, et qui me dit, ce que vous avez dans le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce chemin de guérison de comment, de victime, on devient survivant. Parce qu'en fait, on se reconnaît les uns chez les autres, on reconnaît ça, et on reconnaît ces symptômes, on reconnaît cette violence, cette douleur. Et ça passe beaucoup par une libération d'abord de la parole.
Le réalisateur marocain propose un regard différent sur la société marocaine et met en scène donc un couple explosif. Zanka Contact qui a donc remporté le week-end dernier le Grand Prix du Festival National du Film.
Yeah.
Voilà la voix de Raja, l'un des deux principaux personnages de ce film, une fille de la rue, qui a ce don de pouvoir chanter avec autant de rage, autant de passion. Nous sommes en ligne avec Ismaël El Iraki. Bonjour.
Bonjour David.
Grand prix du Festival National du Film, donc cette année, le soir du palmarès à Midi 1, on vous avait demandé de réagir et dans votre réaction, vous aviez pensé tout de suite collectif. Vous aviez longuement remercié toute l'équipe du film. C'est pas un prix pour le réalisateur, vous disiez, mais c'est pour l'équipe. C'est quoi? Absolument. C'est qu'après une aventure pareille, le jour du sacre, votre cœur, il est plein de gratitude pour tous ceux qui l'ont rendu possible, les comédiens, les techniciens?
Ben, Dieu merci, c'est pas que le jour du sacre que mon cœur est plein de gratitude, c'est absolument tous les jours depuis que ce film a pu être terminé. Le discours que j'ai eu ou l'attitude que j'ai pu avoir, c'est la même que celle que j'ai eue dans tous les festivals où le film a gagné des prix à chaque fois. Et c'est aussi la même que celle qu'a eue Khamsa Batma lorsqu'elle a gagné son Lion de meilleure actrice horizontale à Venise. Elle a tout de suite pensé à l'équipe parce que c'est un film d'équipe. C'est vraiment un film qui s'est fait énormément en collectif. C'est un film qui a été frappé par plein de difficultés terribles auxquelles le film a dû survivre.
Simplement parce qu'il est sorti au moment de la pandémie et que dans votre secteur, ça a été terrible.
C'était la dernière. D'accord. C'était la dernière en date, mais au moment de l'inception du film, de sa fabrication, les difficultés ont été très nombreuses. Le film a été fini pendant le Covid, mais avant ça, on avait un tournage extrêmement difficile. On a eu une production qui était très absente, donc tout ça était très violent et l'équipe s'est vraiment soudée, comme je dis souvent, comme une tribu, quoi, pas comme une armée, parce qu'une armée, ça voudrait dire qu'il y a un général, mais comme une tribu qui est vraiment unie par les mêmes valeurs, le même rêve, en fait.
Vous nous parlez du tournage, ça nous renvoie très, très, très en arrière. Qu'est-ce qui avait été si compliqué que cela au niveau du tournage?
Il faudrait plutôt poser la question inverse. Qu'est-ce qui n'a pas été compliqué? C'est-à-dire que nous, on a vraiment eu à peu près toutes les difficultés que vous pouvez imaginer sur un tournage, on les a eues. On a eu des bagarres, des tentatives de vol de camion, des tournages dans des quartiers très difficiles et mal gérés par une production, comme je disais, qui était totalement absente. C'était un délire, comme je dis. On était un peu laissés à nous-mêmes, donc il y a eu beaucoup de solidarité entre nous pour justement se protéger de ce genre de choses.
Une conception très difficile, et puis une sortie aussi difficile, parce que c'était au moment de la pandémie.
Bien sûr, Covid, tout à fait. Mais même les finitions, c'est-à-dire qu'on a fini le film en Belgique, où la Belgique est partenaire, donc du film, c'est une coproduction, pendant le confinement. Donc moi, j'ai travaillé tout le confinement, c'était le son du film, et les dernières finitions d'images aussi, l'étalonnage principalement. Et oui, ensuite la sortie, repoussée, mais au final, on est quand même très heureux parce que la sortie au Maroc, par exemple, qui était début décembre, a coïncidé avec... en fait, quelque part, on s'est dit à ce moment-là, un peu avec toute l'équipe, avec les comédiens avec qui on les a en tournée, on a fait une tournée en décembre, en fait, grâce à l'Institut français à Chantier-en-Blas. Et c'était formidable parce que, en fait, à ce moment-là, on s'est dit, en fait, tout ce qui nous est arrivé, c'est arrivé pour une raison, quoi. Tous ces reports, le Covid, tout ça, on arrive à un moment où il y a eu le dégagement, si on peut dire, des islamistes peu de temps avant. Il y avait la réouverture en fait des salles. On est arrivé la semaine où ils ont rouvert la séance du soir et puis sans cas contact, comme vous savez, c'est plutôt un film de gens du soir, c'est un film de nuit. Et en fait, tout ça a coïncidé pour faire une espèce de perfect storm, quoi. C'était vraiment pile le bon moment de sortir ce film au Maroc. Et l'accueil a été quelque chose de fantastique. Donc, ça nous a transportés. Ça nous a beaucoup, beaucoup donné d'énergie et d'amour, en fait.
Et comme tous les films, la vie d'un film, c'est aussi la possibilité de le présenter dans les festivals. Quand votre film sort, vous n'avez pas de chance. C'est la pandémie. Tous les festivals sont annulés les uns après les autres. Mais il y en a un
Absolument.
Qui subsiste, donc c'est Venise. Et non seulement il subsiste, mais il vous sélectionne en sélection officielle. Il vous retient en sélection officielle. Et après, donc, il y a la récompense dont vous parliez pour Khamsa Batma, prix de la meilleure actrice. J'imagine que c'est l'un des souvenirs les plus forts que vous ayez depuis le début de cette aventure.
Ah oui, c'est incroyable. Ça, c'était vraiment incroyable parce que moi, comme je le dis souvent, sans Khamsa, le film n'existe pas. C'est-à-dire que le film, je l'ai vraiment écrit pour elle. Elle y a contribué énormément. C'est un film qui serait inimaginable sans elle. Et pour autant, on a beaucoup essayé de me faire changer ce choix-là. Elle était beaucoup remis en question parce que Khamsa n'avait jamais tenu de premier rôle. Elle-même a douté parfois en disant « mais est-ce que je vais pouvoir le faire ? Est-ce que je vais... » Et en fait, cette récompense qui était la première qu'on a eue, la première d'une bonne série, mais c'était la première, la toute première, j'étais beaucoup plus heureux que ce soit une récompense pour Rintsa, aussi parce qu'elle a eu cette réflexion magnifique de dire que l'acting était un travail d'équipe, ce qui en plus dans son cas est très très vrai, c'est-à-dire que composer des personnages comme ça, c'est du costume, c'est de la lumière, mais c'est aussi les autres comédiens qui vous guident, qui vous aident, qui vous donnent de l'énergie, qui vous proposent des réactions. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, tout à fait. Elle a tout à fait raison de dire ça. Et moi, j'étais très touché que cette première récompense pour le film, ce soit une récompense pour elle, parce que pour moi, il n'y a rien qui pouvait plus incarner le projet du film qu'une récompense pour Rintsa.
C'est l'un des souvenirs les plus forts depuis le début de cette aventure. Il y en a d'autres aussi, j'imagine.
Oh oui, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On a eu la chance que le film soit projeté dans de nombreux pays où bon, j'ai pas toujours pu aller à cause de la pandémie, mais il y en a eu plein. Il y a, vous savez, quand vous remarquez que les spectateurs sont touchés par les mêmes choses en Corée, à Londres, en République tchèque, enfin aux États-Unis, partout dans le monde, que au Maroc, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, ça vous donne... Moi, je suis plutôt un humaniste et donc ça vous conforte en fait dans cette vision de l'humanité qui est que le langage du cinéma, c'est le langage des émotions et qu'on a tous un cœur qui bat, quoi. Donc c'est cette langue-là que les films parlent pour moi, et du moins dans le cinéma qu'on voulait proposer avec ce film. Et donc ça fait vraiment chaud au cœur, ça donne confiance. Voilà, c'est extraordinaire comme sentiment. Il y en a eu plein d'autres, des beaux moments.
La carrière internationale de votre film, vous en parlez, elle continue. J'ai vu qu'en mai dernier, vous l'aviez sorti en Tunisie.
Absolument, ouais. Ouais, tout à fait. En mai dernier en Tunisie, ouais. C'était très sympa d'ailleurs. La tournée en Tunisie était très intéressante parce qu'on avait ce sentiment très fort de peuple frère plus que ami. Et en même temps, il y avait un petit décalage où il y avait des petites choses de la culture plus que de la réalité marocaine qui leur échappaient un peu parfois et qui faisaient qu'ils étaient vraiment plus connectés sur l'aspect émotionnel comme lors de la sortie française, par exemple.
Ismaël Al-Iraki, Zanka Contact, c'est votre premier film. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait parler de lui. Et maintenant, je suis sûr que vous avez des projets, des envies. Vous pouvez nous en parler ?
Écoutez, moi je suis quelqu'un de très superstitieux, donc je parle pas de mes projets. Ce que je peux dire, c'est que j'ai été beaucoup au travail depuis Venise, en fait, parce que après Venise, on oublie, mais il y a eu le deuxième confinement qui a retardé donc la sortie du film. Et moi, j'ai eu la chance de signer mon deuxième film tout de suite après Venise et donc de me mettre au travail immédiatement. Donc, ce sera un peu comme pour Zanka Contact, mon deuxième et mon troisième film. Il y a cette envie de mêler à, disons, mon territoire de fiction qui est le Maroc, une envie de film très bigger than life, quoi, très avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de cinéma, quoi, avec du genre, avec du rire, des larmes, tout ça. Et donc ça, si c'est ça que vous avez aimé dans le premier, vous serez pas déçu pour les suivants.
Vous êtes à quel stade du projet ? Vous êtes toujours au niveau de l'écriture ?
Le second est bien avancé. Ouais. D'accord. Le second est bien avancé un peu au-delà de l'écriture.
Et vous me parlez de second et du troisième, du deuxième et du troisième. Donc, c'est une trilogie que vous nous préparez ?
En tout cas, c'est trois films différents, mais c'est pas une trilogie. Les films ne sont liés que par les différentes fidélités que j'ai aux acteurs, aux actrices et à l'équipe technique, qui sont des choses... si vous avez vu les courts-métrages que j'ai fait avant, vous avez remarqué qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de noms dans les génériques qui reviennent. Et ça, c'est quelque chose qui ne changera pas pour les prochains films.
Ismaël Al-Iraki avec nous dans Bain de Culture. Merci d'avoir partagé avec nous votre joie. Et on vous souhaite bonne chance dans vos projets à venir, donc pour ce deuxième et ce troisième film en cours de gestation.
Beaucoup.
Merci beaucoup, Ismaël.
Merci à vous. Au revoir.
Midi, bain de culture avec David Labo.
Find the cost of freedom, buried in freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body.
Find the Cost of Freedom, Crosby, Stills, Nash & Young sur Média. Une exposition à voir actuellement au musée Yves Saint Laurent à Marrakech. Elle est consacrée à l'œuvre d'un personnage atypique. Il a longtemps vécu au Maroc. C'est un Français, scientifique et artiste. Il s'appelait Théophile Jandelet. Son portrait avec Mounia Belharbi.
Théophile Jandelet a vécu au siècle dernier. Profession, topographe, cartographe et en parallèle à ses heures perdues, peintre et dessinateur. Au milieu des années 20, il s'installe au Maroc. C'est un militaire, un lieutenant. Il devient responsable de la topographie au sein du service géographie du Maroc. Le Maroc, il va y passer une bonne partie de sa vie jusqu'au début des années 60. Il habite Rabat, mais il parcourt inlassablement le pays au gré de ses missions. C'est l'époque de la colonisation où l'on a tendance à effacer la culture locale, à rebaptiser les lieux avec des noms français. Mais lui ne voit pas les choses ainsi. Quand il dessine les montagnes et qu'il crée ses cartes, il reprend les appellations berbères pour nommer les massifs, les montagnes et les rivières qu'il représente. Il passe son temps à dessiner les reliefs, c'est son métier, mais aussi et surtout, c'est un passionné de montagnes. Il est à l'origine de la création du parc naturel de Toubkal en 1942. Il crée la section marocaine du club alpin français qui ouvre un premier refuge au Toubkal. Une vie passée à sillonner le Maroc pour le représenter avec ses cartes, mais aussi avec ses dessins, sa peinture, crayons, encre, aquarelle, gouache. Et c'est à cette œuvre que le musée Yves Saint Laurent rend hommage en ce moment.
Et de cette exposition, on en parle maintenant avec Madison Cox. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent. Qu'est-ce qui fait, à vos yeux, du personnage de Théophile Jandelet un personnage hors du commun ?
Ben écoutez, c'est un personnage qui a un regard, je trouve, très intéressant sur le Maroc. C'est un personnage qui avait, je pense, un grand respect pour le Maroc, un aspect assez scientifique, pas romanesque ou un orientaliste. Au contraire, c'était quelqu'un qui a capté le Maroc tel qu'il était dans les années 20, les années 30. C'est assez très différent de l'œuvre de, par exemple, Jacques Majorelle, dans le sens que Majorelle, il a capté l'imagination ou l'esprit peut-être orientaliste du pays. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. C'est deux démarches très différentes, à peu près au même moment du début du XXe siècle.
C'est une œuvre diverse. Il y a d'une part sa production scientifique, de par sa formation de cartographe, de géographe. Donc, il y a les cartes qu'il réalisait. Et puis, en parallèle, j'allais dire à ses heures perdues, son œuvre dessinée et colorée durant toutes ces années où il visitait le Maroc et qui permettait de donner chair au paysage qu'il avait cartographié et dessiné par ailleurs. Il y avait une production aride et puis une production beaucoup plus colorée et beaucoup plus facile d'accès aussi pour les uns et les autres.
Mais c'était peut-être plus réaliste dans un sens. Il a monté dans des parties du pays peu explorées, peu connues, à part les tribus locaux. Et ce qui était très intéressant, je trouve aussi, c'est que quand je parle de cette démarche très intéressante et très scientifique, c'est que Delay, il n'a pas seulement cartifié le pays, il n'a pas seulement dessiné les montagnes, les vallées, etc., mais il a aussi nommé, il a donné les noms à ces lieux. Et au lieu de donner les noms à qui étaient plutôt liés à la France, car il était quand même français, il a donné les noms attribués par les berbères, mmh. Exactement, ce qui est très intéressant aussi, que ce soit Toubkal, la montagne Toubkal, etc., qui est devenue vraiment une identité marocaine depuis le début, si vous voulez. Ça, c'est très très fort, je trouve aussi.
Quand il dessinait la haute montagne, il introduisait presque toujours une trace humaine et ses personnages portent l'arnif, ce manteau des bergers avec toujours une pièce de tissu rouge pour les rendre repérables. La présence de l'arnif comme ça dans la plupart de ses dessins, de ses toiles, ça devient presque une signature quand il peignait des scènes en pays berbère.
Mais tout à fait, ça le permettait aussi de localiser ou identifier l'identité locale de ces diverses régions dans le Maroc. C'est ça qui est très intéressant. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est fascinant, parce que son travail, son œuvre est d'une façon, bien sûr, artistique. C'est très beau, ses dessins, ses rendus des montagnes, certains couverts de neige, la lumière dessus, etc., le ciel, mais aussi un autre aspect vraiment scientifique et authentique, si vous voulez. Et ça, c'est fascinant.
La lumière qu'il fait apparaître comme ça sur ses dessins du Toubkal, il y a aussi les scènes de rue, je pense à des scènes de rue, par exemple, dans la Médina de Fès. Mm-hmm. Il n'y a pas photo, hein, si on peut dire, le Maroc, il le connaissait très bien pour y vivre, pour l'arpenter, et c'était un Maroc qu'il aimait profondément.
Ah oui, non, je pense que c'est évident, ça se voit, ça se lit très, très, très bien. Et tout est très détaillé. Ah, c'est ça qui est fascinant, donc, que ce soit ses dessins, ses rendus des chaînes de montagne, même les scènes urbaines, ou que ce soit rurales ou urbaines, c'est quand il y a une précision dans ses dessins et un focus sur le détail que tout le monde, tout le visiteur peut reconnaître. Et il y a encore cet aspect encore aujourd'hui. Il y a une scène de la rue de Marrakech qui est merveilleuse. Et même si c'est rendu dans une façon artistique, il est très, très précis. Et ça, c'est son côté cartographe, son côté scientifique.
Il était basé à Rabat, on l'a dit, mais il multipliait les missions pour découvrir et décrire, représenter le Maroc. C'est un bon connaisseur du territoire, un bon coloriste aussi. À Marrakech, l'exposition que vous proposez s'ouvre par une toile représentant le Toubkal. Vous l'avez forcément en tête, c'est un paysage rocailleux, adouci par la neige au sommet. C'est un passionné par la montagne. Lui-même, je crois, se définissait comme un rochassier.
Ben absolument, c'était un des grands défenseurs des création des parcs nationaux, que ce soit les parcs de Toubkal, et il voulait absolument protéger ce patrimoine qui est très important au Maroc, et grand défenseur sur cet aspect aussi, qui est très intéressant, parce qu'au début du XXe siècle, c'était assez nouveau, ce concept de préserver des lieux par leur patrimoine, par leur force de la nature, l'importance de cette nature. Il y avait ce mouvement qui était commencé aux États-Unis au fin du 19e siècle, mais c'était l'idée de préserver, de faire des parcs nationaux. Ce n'était pas l'origine, beaucoup des parcs, que ce soit en Europe, c'était les domaines royaux qui devenaient peut-être des parcs ouverts au public, etc. Mais la création des parcs nationaux dans le sens de préserver les lieux encore peu ou pas touchés par l'homme était assez nouvelle comme concept. Et donc lui, il a été une force majeure derrière cette concept au Maroc.
Voilà, le Maroc de Théophile Jandelet, l'exposition est visible jusqu'au 15 janvier au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Merci Madison Cox.
Merci à vous et bonne journée. Merci.
À suivre dans les prochains jours, concert de l'Orchestre Symphonique Royal, samedi prochain à Casablanca, le lundi à Rabat, au programme notamment des œuvres de Richard Strauss. L'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'OPM, les concerts d'ouverture du 16 au 20 octobre, avec des œuvres de Dvorak, Mendelssohn et Ravel. La tournée débute à Tanger, puis l'OPM ira à Rabat et Casablanca. Casablanca, enfin, sachez-le, qui va accueillir des rencontres chorégraphiques. C'est de la danse contemporaine, avec la présence de compagnies marocaines, tunisiennes, sénégalaises, françaises, belges, espagnoles et italiennes. C'est du 12 au 16 octobre. Si vous aimez la danse, c'est à ne pas rater. Et on va reparler la semaine prochaine dans Bain de Culture. La danseuse et chorégraphe Alham El Morsi, à l'origine de cet événement, sera notre invitée. Je vous embrasse, à dimanche prochain.